Excusez-moi, c'est un peu la course parce que je reviens de Yssingeaux où j'ai fait le culte déjà. Et donc, c'est un petit peu bousculé ce matin. Christophe, est-ce que tu arrives à trouver ? Super, merci. Je voulais vérifier avec vous, est-ce que chacun ou à deux, vous avez une petite feuille comme ça ? Oui ? Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui ont récupéré toute la prédication, vous n'avez pas besoin de cette feuille-là, parce que le texte biblique, c'est le texte biblique pour ce jour. Donc chacun a une feuille comme ça, au moins. C'est ça ? D'accord. Voilà, nous allons nous poser un peu, en tout cas moi, dans le silence. Et je suis heureuse, Guy de Bar est là aussi, il nous accompagne à la musique. Et donc, entrons dans ce temps de culte en écoutant la musique. Nous venons au silence et nous venons à la vie telle qu'elle est, la vie ambiguë, mêlée, la vie insaisissable, obscure, vaste, la vie qui désempare, la vie profuse, la vie dense, la vie déroutante, imprévisible, profonde, la vie qui étonne, la vie sauvage, la vie douce et la vie dure, tout ensemble. Ce n'est pas pour la pensée, la vie, que nous venons au silence, ni pour la regarder de haut, ou bien tordre son cours. Nous venons au silence pour la vivre, la vie. Pas la vie en général, mais la vie comme elle me vient, à moi, à toi. La vie telle qu'elle m'empoigne, se jette dans mes bras. La vie telle qu'elle m'éprouve, telle qu'elle m'advient, aucune autre. Car Dieu, cette force de vie, Dieu n'est pas un philosophe, Dieu n'est pas un surhomme, Dieu est un vivant. L'unique trésor, ce n'est pas la vie dont je rêve, c'est la vie qui m'arrive, et Dieu s'y tient. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère en humanité et notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au cantique 12-016. 12-016, joie pour des sœurs et des frères. Et nous allons chanter la première strophe, la troisième, et puis on va chanter un petit peu en hébreu aussi. Joie pour des sœurs et des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière par l'Esprit qui rassemble. Alors, on a chanté en hébreu cette semaine. Nos frères et sœurs juifs vont fêter Yom Kippour. Donc, ça commence le 4 au soir et ça se termine aussi le 5 au soir. C'est la fête du grand pardon. C'est la plus grande fête juive dans l'année. Et donc, pensons aussi à nos frères et sœurs juifs pour qui c'est une semaine, un temps vraiment important. En ces temps-ci, ils ont beaucoup de fêtes. Et là, ça va être Yom Kippour. Donc, c'était aussi peut-être pour ça qu'on chante en hébreu un peu, pour chanter avec eux. Alors maintenant, nous voulons entrer dans le temps de la louange avec le psaume 23. Et il est... Est-ce que je l'ai amené ? Non, je ne l'ai pas amené. Donc, le psaume 23... Et je voudrais le dire, alors je voudrais demander à quelqu'un de venir devant pour le dire avec moi. Peut-être Mireille, tu pourrais venir ? Oui, oui, voilà. Parce que je voulais amener la feuille, mais je ne l'ai pas amenée. Mais comme ça, on peut le dire en alternance, comme si on le disait, si on est tous les deux. Alors... C'est le psaume 23, d'une manière où on le dit l'un à l'autre. On se dit les paroles. Voilà, alors on est deux sœurs, mais on va maintenant parler mon frère, ma sœur. Voilà, deux voix féminines. Alors je vais commencer et tu lis tout ce qui est en gras. Ça marche. Mon frère,
ma sœur.
Le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien.
Il te fait reposer dans de verts pâturages.
Il te dirige vers des eaux paisibles.
Il restaure ton âme.
Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Et quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort,
tu ne crains aucun mal, car il est avec toi.
Sa houlette et son bâton te rassurent.
Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires.
Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie.
Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours.
Amen. Amen. Merci. Et nous chantons au psaume 92. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur. Si vous voulez suivre dans vos recueils, les psaumes sont tout au début du cantique. Vous trouvez le numéro des psaumes. Il est beau, hein, on a envie de continuer. Recueillons-nous devant l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, assoiffés de vraie vie. Avec tout ce qui nous tient journellement en haleine, nous occupe, nous préoccupe. Rafraîchis-nous de ta présence. Renouvelle en nous l'élan de vie, l'élan de fraternité et de solidarité. Renouvelle en nous l'amour pour notre prochain. Purifie-nous de tout ce qui fait blocage entre nous et ta vie donnée. Fais-nous revivre. Désaltère-nous par l'amour dont la source se trouve dans les profondeurs de ton être. Ouvre nos yeux pour qu'ils contemplent les beautés de l'univers que tu as créé. Ouvre nos cœurs au flot de ton esprit vivifiant qui remplit l'univers tout entier. Ouvre nos mains. Elles sont mains de Dieu pour le monde. Amen. Et je vous invite à chanter, vous pouvez rester assis. On va chanter « Oh, prends mon âme ». Vous le trouvez dans vos recueils de cantiques au 44-14. « Oh, prends mon âme » et on va chanter les strophes 1 et 2. Nous voulons maintenant nous mettre prier et puis nous mettre à l'écoute du texte biblique. Alors, je vous ai apporté aujourd'hui une feuille avec le texte biblique. Vous pouvez quand même l'écouter parce que c'est un autre exercice écouter que de lire. Mais je vous l'ai amené parce que ce texte est un texte où plusieurs morceaux sont rassemblés, qui ne sont pas très faciles. Ce n'est pas toute une histoire comme ça qu'on retient plus facilement. Et donc tout à l'heure, pendant le moment de la prédication, vous pourriez aussi rejeter des coups d'œil sur ce texte. Mais c'est Sylvie qui nous guide, et je vous propose de plutôt écouter.
Avant de lire dans la Bible, nous prions. Parfois joyeuse, parfois inquiétante, parfois muette, parfois incompréhensible, parfois révoltante, parfois limpide, ta parole, ô Dieu, touche nos oreilles. Permets que ta parole devienne source de vie pour nous, qu'elle se glisse comme une eau rafraîchissante dans nos failles et nos interstices pour toucher notre être. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, les versets 1 à 10. Vous pouvez bien entendu suivre sur vos feuilles. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'y ait pas de cause de chute, mais quel malheur pour celui par qui cela arrive. Il serait avantageux pour lui qu'on lui attache autour du cou une pierre de moulin et qu'on le jette à la mer s'il doit causer la chute de l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il change radicalement, pardonne-lui. Et s'il pèche contre toi 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je vais changer radicalement », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, donne-nous plus de foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paraître les troupeaux, lui dira quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir. » Jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. Saura-t-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et nous chantons le cantique « Écoute, entends la voix de Dieu » le 2207, les strophes 1, 2, 3 à la page 262.
Je vous invite à vous asseoir. En lisant le passage de l'Évangile pour ce jour, je me suis dit, c'est un passage surprenant, voire un peu déstabilisant. Il y a un peu tout. Enseignement sur les scandales, le pardon, la foi, le service. On ne voit pas trop a priori le lien entre ces paroles, pour quelles raisons Luc les a regroupées de cette manière-là. Ces versets sont coincés entre deux récits majeurs. Le récit qui précède ce passage, c'est la parabole du riche et de Lazare. Et le récit qui suit notre texte d'aujourd'hui, c'est la guérison de 10 hommes lépreux. Donc deux textes importants. Jésus et ses disciples sont en chemin ensemble. Luc a composé son évangile comme un récit de voyage de Jésus et de ses disciples vers Jérusalem. Et quand on marche ensemble pendant longtemps, nos petites balades fraternelles que nous faisons dans notre paroisse ne sont pas de cet ordre-là, mais quand on marche longtemps ensemble, une vraie randonnée pendant des jours et des jours, on est forcément dépendant les uns des autres. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience si vous avez marché pendant des jours, par exemple, sur le chemin de Saint-Jacques, qui est maintenant très parcouru, on va dire. Je n'y vais pas sans toi. On a besoin de l'autre qui marche avec moi. On doit parfois s'attendre. Parfois, j'aurai besoin de ton aide. Nous sommes ensemble, compagnons de route, dans une même aventure. Et on peut transposer cela sur d'autres manières d'être en chemin ensemble, pas seulement sur des chemins de randonnée, mais dans notre vie tout court, être en chemin ensemble. Jésus parle à ses disciples de conditions de voyage en commun, de ce chemin en commun. Il commence par dire quelque chose de très rassurant, je trouve. Il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Dans toute entreprise humaine, commune, c'est ça. J'étais frappée par la formulation qui est libératrice. Car Jésus ne le formule pas comme un vieux pessimiste, le genre qui dit à une fête de mariage, par exemple, « Oh, vous allez voir, hein, vous les jeunes, ça ne va pas toujours être comme ça. » Ou l'éternel sceptique qui tue tout projet dans l'œuf avant même que vous ayez commencé, en vous expliquant toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en chemin. Jésus ne dit pas justement, vous allez voir, ça va mal se passer. C'est pas du tout ça. Il dit plutôt, ne vous découragez pas si vous tombez sur un scandale. Il est impossible que les scandales n'arrivent pas et que ça ne vous empêche pas d'y aller. Vous ne pensiez quand même pas que vous étiez obligé à faire un trajet sans faute, à être parfait, à quelque chose d'inhumain et d'impossible à atteindre. Non, rassurez-vous, il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Mais en fait, à quoi Jésus fait-il allusion quand il parle de scandale ? Qu'est-ce qu'il appelle un scandale ? Nous entendons malheureusement souvent parler de scandale dans notre société. Pour nous, le scandale, ce sont forcément de grandes choses, plus ou moins succulentes, scandales moral, financier, humain. Pour les scandales, on a toute une presse à scandale, justement. Un scandale, pour nous, c'est une faute morale assez grave pour qu'on en fasse un esclandre. Mais Jésus utilise le mot « scandalon » qui veut dire littéralement ceux qui sautent, le scandalon et le tout petit truc qui fait marcher un piège, la détente d'un piège. Le petit truc qui saute et qui fait tomber un animal souvent dans le piège. Forcément, on ne le voit pas. C'est fait pour ça qu'on ne le voit pas. C'est tout petit. On sait contourner un gros obstacle qu'on voit. On tombe dans le piège des toutes petites choses. Plus tard, le mot scandalon, le tout petit truc qui saute et qui fait tomber dans le piège, va dire aussi le piège en lui-même, puis l'embûche qu'on met sur la route pour faire tomber l'ennemi. Mais au début, donc, le scandalon, c'est tout petit. Vous voyez le piège à souris ? J'ai souvent du mal à les mettre, déjà, parce que j'aime pas trop penser à ce que je vais trouver une souris morte. Mais c'est difficile à mettre. Ça tient un tout petit truc pour que ça... Voilà. Et c'est ça, le scandalon, tout petit, tout fin. Alors, si c'est tout petit, ce quelque chose qui saute et qui fait que ça saute entre les humains, c'est vrai qu'on n'en est pas à l'abri, jamais, dans aucune aventure humaine. On fait tomber quelqu'un d'autre par un tout petit truc, une parole maladroite, ou une parole qu'on n'a pas dite, mais qui aurait été bien de dire, ou un geste qu'on n'a pas fait ou un geste qu'on a fait de trop. Il est impossible, dit Jésus, que les scandales n'arrivent pas. En amont, on aurait mieux fait d'attacher une pierre de meule autour du cou de celui par qui le scandale arrive. Mais ça, après coup, on peut toujours le dire. La question... Et c'est le sujet suivant qui vient dans notre texte. La question se pose plutôt dans ces termes-là. Maintenant que ce scandalon est arrivé, que quelque chose de grave s'est passé, qu'en faisons-nous ? Il dit, si ton frère a péché, reprends-le. S'il change radicalement, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois, par jour, et que 7 fois, il revienne à toi en disant « Je vais changer radicalement », tu lui pardonneras. Et après cette parole de Jésus, les apôtres lui disent « Augmente-nous la foi, ajoute-nous la foi ». Et je pense, enfin, c'est ce que je me suis dit, ils disent tout haut ce que moi j'ai pensé tout bas. En lisant ce texte. Seigneur, s'il faut pardonner 7 fois dans la journée la même personne, ajoute-moi un peu de foi, c'est ce que j'ai pensé. C'est décourageant et découragé. Restons un peu dans ce découragement, puisque c'est le nôtre. C'est notre découragement face à tous ces petits scandales qui nous font trébucher. Jour après jour, tous ces petits trucs qui finissent par faire une montagne. C'est décourageant, oui, c'est décourageant. Il aurait mieux fallu attacher une pierre de meule autour du cou de celui qui me fait chuter. Et si on ne va pas jusqu'au fantasme de meurtre, on prend au moins nos distances. On laisse tomber l'autre. La relation. On peut quitter l'aventure humaine dans laquelle on était embarqué. Quand on pense au voyage commun de Jésus avec ses disciples, on peut imaginer qu'il y a eu ce genre de moment de découragement profond. Sinon, pourquoi Jésus en aurait parlé ? Parce qu'il faut toujours recommencer. Nous aimons bien commencer et peut-être moins bien recommencer. Cette parole sur le pardon nous dit que non. Recommençons, recommençons. D'ailleurs, qui dit que c'est ton frère qui a péché contre toi ? C'est toi aussi ce que tu vois chez ton frère. Cette paille dans son œil se trouve comme poutre dans ton œil à toi. Il y a un autre beau texte là-dessus. Sans pardon, sans recommencement, il n'y a plus de vie commune. Si je dois pardonner à mon frère, à ma sœur, je dois aussi être capable d'aller le trouver, la trouver, pour lui dire que j'ai fait erreur, je me suis trompée, je lui ai fait du mal. Sinon, il aurait mieux valu m'attacher une pierre de meule autour du cou. Et ça, justement, ça ne m'est pas demandé. Ce qui m'est demandé, ou plutôt ce qui m'est recommandé, c'est de recommencer. On a compris, on a très bien compris, mais alors, augmente-nous la foi. Ce que tu demandes, c'est trop dur, c'est difficile, c'est trop difficile. Et les disciples disent, augmente-nous la foi, après ce qu'il vient de dire. Et la réponse de Jésus est que la foi n'a pas besoin d'être grande. La foi, une graine de moutarde suffit. Ça aussi, c'est tout petit, la graine de moutarde. Aussi petit que le scandale, même plus petit. Tout d'un coup, ça saute aux yeux, les relations. Ce qui peut nous faire tomber est tout petit. La foi, ce qui peut tout transformer, elle est toute petite aussi. La foi, ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a de plus ou moins grande quantité. C'est le tout petit truc qui déclenche un mouvement qui va tout transformer. La foi, c'est quelque chose qu'il faut commencer, oser, et ce mouvement, rien ne l'arrêtera. Mais n'attendez pas d'avoir une foi grande comme une montagne et exemplaire. Commencez avec le grain de moutarde, tout simplement. Et en faisant ça, ça entraîne plus loin. C'est plutôt encourageant donc, cette parole sur la foi, qui n'a pas besoin d'être grande. Ce n'est pas moi qui l'ai fait justement, ces grandes choses. Je fais confiance à plus grand que moi, dans ma foi petite comme une graine de moutarde. Je fais, Dieu fera le reste, il fera pousser. Et notre passage continue sur les serviteurs ou les esclaves, on peut traduire aussi, serviteurs inutiles. Une expression qui circule notamment dans nos cercles d'église. Oh, je n'ai fait que mon devoir, je suis un serviteur ou une servante inutile. Mais au final, on ne sait jamais si au plus intime de nous-mêmes, on ne souhaite pas entendre les autres chanter nos louanges, justement. Personne n'est exempt de cela. Vous savez que ce mot inutile, qu'on peut aussi traduire par bon à rien ou quelconque, est rare dans la Bible, très très rare. Il ne figure qu'à deux endroits dans le Nouveau Testament et puis une fois dans une histoire de l'Ancien Testament, et qui peut justement éclairer notre histoire. C'est l'histoire du roi David qui entre dans Jérusalem avec l'arche, dans laquelle il y a les rouleaux de l'Alliance. Vous trouvez ce récit dans le deuxième livre de Samuel. C'est le moment suprême de consécration de son rôle de roi, justement, de sa ville Jérusalem, comme capitale et de tout ce qu'il a accompli pour en arriver là. David, attendu comme un messie, le grand roi, il est derrière l'arche et on lit dans le récit qu'il danse à moitié nu entre les autres avec toute la foule d'hommes et de femmes, les esclaves, les servantes, c'est inouï. Et sa femme, Michal, Michal était la fille du roi Saül, le premier roi. Sa femme Michal regarde la scène du haut d'une fenêtre et elle est scandalisée. On retrouve le scandalone là. Elle est scandalisée, elle a honte. Elle dit « Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux des servantes et de ses gens comme s'exposerait un homme de rien. » Et on retrouve le bon à rien de tout à l'heure. Elle n'est pas contente, Michal. Elle a honte pour le roi et pour elle-même. Et ce qui est intéressant est la réponse de David, parce qu'il y a ce même mot inutile. Il dit « Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. J'ai joué face à l'Éternel et je veux paraître encore plus méprisable, plus bon à rien, car je ne suis bon qu'à jouer devant l'Éternel. » C'est une belle réponse d'un homme libre, vraiment libre. Où est notre mérite dans l'œuvre de Dieu ? Devons-nous chercher à être quelqu'un aux yeux des autres et aux yeux de nous-mêmes, ou jouer et danser devant Dieu dans une joie libre? C'est comme si en nous, il y avait les deux regards, celui de David et celui de Michal. Le regard du roi qui danse devant son Dieu, qui suit le cortège, qui est libre, qui ne se soucie pas du regard des autres. Il est simplement serviteur parmi d'autres. Et puis l'autre, de la fenêtre, de celui en nous qui guette toujours la reconnaissance, l'honneur, la place acquise, le regard qui n'est jamais content, qui compare justement avec les autres. Nous sommes tous des serviteurs inutiles, et j'ai besoin de me le dire tous les jours, bonne à jouer et à danser devant l'Éternel. Il n'y en a pas un qui serait plus utile qu'un autre. Il n'y en a pas un qui aurait une plus grande foi qu'un autre. Et c'est libérateur finalement. L'évangile de ce dimanche, ces petits bouts enchaînés qui semblaient décousus, au début est au final une grande invitation à la liberté. Oui, le scandale, c'est tout petit. La foi, elle est toute petite. Et avec cela, nous voici invités à une grande joie d'être libres devant Dieu, devant notre propre regard et celui des autres. Invitation à garder en nous précieusement cette image du roi David qui, comme un enfant, danse et saute de joie au milieu des autres avec qui il est en chemin. Alors, poursuivons notre chemin. Amen. Je vous propose de chanter au psaume 81. Psaume 81, comment il s'appelle déjà ? Christophe, tu peux passer après. Voilà, que nos chants joyeux. Donc je vous propose de chanter, de vous lever pour chanter au psaume 81, les strophes donc 1, 2, 3 et 7. Je vous invite à vous asseoir, ça va être le moment des annonces.
Bonjour à tous. Alors, quelques annonces pour cette semaine. D'abord, merci à Guy Debar pour son accompagnement musical. Mardi, tricoté à 14h30, salle adhérent. Toujours mardi, à 19h, réunion du CP. Mardi encore, chorale à 17h, à la Grangette, au Mazet. Mercredi, 20h, études bibliques au presbytère de Tence, avec la pasteur Monique Aurieux. Vendredi, halte prière à 11h à Bastianou. Et à 9h, c'est le premier vendredi du mois, donc matinée ménage. Vendredi encore à 18h, rencontre avec toutes les personnes qui ont pris part aux différents services cet été. Nous partagerons un petit apéritif. Alors pour toutes ces personnes et pour d'autres, nous avons à la sortie du culte la feuille des services. Vous êtes engagés cet été, mais si vous avez envie de continuer, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le faire pour un dimanche, pour un mois, pour une cérémonie. Merci à vous. Aujourd'hui, c'est la rentrée de l'école biblique et la journée avec les catéchumènes. À la sortie du temple, les chalets sont à la disposition des différents distributeurs. Et si vous ne le recevez pas, il y a aussi quelques chalets que vous pouvez prendre. La paroisse de Tence fait une vente de caillettes samedi prochain. Il faut les commander et sur le panneau à la sortie du temple, il y a les coordonnées des personnes à qui vous pouvez vous adresser. Samedi 22 octobre, au puits, il y a la journée écuménique. Vous avez aussi des petits flyers que vous pouvez prendre à la sortie du temple. Voilà, Esther, je crois que tu veux ajouter quelque chose.
Oui, juste préciser pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le chalet, Lou Chalet, c'est notre journal de paroisse. Mais Lou Chalet, c'est la petite lampe à huile avec laquelle on lisait autrefois. Voilà. Et donc, ceux qui ne le reçoivent pas chez eux, vous pouvez prendre un exemplaire à la sortie. Il y a aussi une feuille à la sortie avec les différentes dates encore de rentrée, etc. Donc la feuille que Jacqueline a présentée bleue sur la journée œcuménique. Et puis je voudrais vous parler, comme aussi vous dire, mardi matin à 10h, de 10h à midi, le diaconat propose une rencontre pour nous pencher sur des actions possibles autour des personnes qui sont trop isolées. Donc que faire, comment faire pour aider les personnes qui sont trop isolées, aussi l'éloignement et la solitude. Et donc on veut avoir un échange à ce sujet et des personnes qui peuvent donner et leurs idées, mais peut-être aussi participer, mais même leurs idées, sont les bienvenues à la salle Bastiano mardi matin à 10h. Et puis je voulais vous dire, la semaine dernière, on avait le culte de rentrée avec les jeunes, tout ça. Il y avait aussi un invité de la paroisse de Saint-Agrève. Et donc, vous redire, mais plus brièvement, que le 16 octobre, nous n'avons pas culte ici. Il n'y a aucun autre culte dans le consistoire. Nous avons une journée consistoriale au Mazet-Saint-Voix. On se retrouve pour le culte déjà à 10h. Et puis, il y aura des ateliers de réflexion pour notre vivre ensemble au niveau de nos paroisses. Et donc, ceux qui peuvent, amener un pique-nique pour rester sur place. Et on va poursuivre la journée jusqu'à 16h30, je crois. Mais venez, si vous ne pouvez pas rester toute la journée, venez au moins le matin. Voilà. Et maintenant, nous partageons un temps d'offrande où chacun donne sa libre participation au fonctionnement de l'Église. Et comme il est dit dans un texte biblique de Paul, le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Est-ce que ça... Chers frères et sœurs, est-ce que vous m'entendez comme ça?
Oui.
Très bien. Alors vous avez vu que nous allons partager le repas du Seigneur, comme on l'appelle, le repas qui fait penser au repas que Jésus-Christ a partagé avec ses disciples. Et nous voulons entrer dans ce temps en louant Dieu. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et dans ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est encore notre joie d'attendre la venue du Saint-Esprit, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons la communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité de l'Éternel. Alors, nous voulons chanter ensemble « Saint, Saint, Saint et le Seigneur ». Vous pouvez rester assis. C'est le 62-42, pardon, 62-42. Écoutons comment Jésus a pris le repas avec ses disciples. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le leur donna en disant « Ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Devant ce pain et ce vin, et unis entre frères et sœurs, prions. Dieu éternel, tu es notre confident, et auprès de toi nous venons pour te parler de la vie, de notre vie, et de la vie de nos proches, de la vie des humains dans ce monde. Tu nous appelles inlassablement à nous placer du côté de la vie, du côté du oui à la vie, du côté de l'espérance, de l'amour, de la fraternité et du recommencement. Confiant en ta parole, nous voulons déposer devant toi nos préoccupations, nos soucis, notre inquiétude, tous nos noms qui nous chahutent intérieurement. Nous voulons te prier pour nos proches, te remettre tout particulièrement tous ceux qui traversent un temps de solitude, d'angoisse, de maladie, de manque de confiance. Nous voulons déposer devant toi l'éventail de nos oui et de nos non. Et tous ensemble, nous voulons te prier aussi avec les mots de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, nous sommes tous invités à partager le repas, n'importe notre origine ou notre confession. Que tous ceux qui partagent les valeurs d'humanité et de fraternité incarnées par Jésus le Christ se sentent maintenant invités à partager son repas. Alors ceux et celles qui ne souhaitent pas communier peuvent quand même se mettre dans le cercle pour passer le pain et le fruit de la vigne, et ceux et celles qui souhaitent rester assis mais souhaitent quand même communier peuvent faire un signe et on leur apportera. Alors je vous invite à faire un cercle autour de la table. Peut-être qu'on peut faire un cercle devant comme ça. Si on se serre un peu de ce côté, venez bien ici. Et puis, comme ça devant, on devrait pouvoir faire un petit cercle. Venez par ici. Voilà, et puis maintenant, on va faire le cercle comme ça. Là, il faut bien continuer ici. Et ensuite, passer devant le premier banc pour fermer le cercle. Voilà, comme ça, exactement. Voilà, vous vous joignez au cercle. Vous pouvez faire le cercle comme ça pour qu'il se ferme. Enfin, il faut toujours laisser des passages pour les derniers arrivés. Hein, donc, toujours la place vide pour l'invité de dernière minute. Voilà. Nous avons maintenant pris l'habitude de communier avec les petits verres. Et donc, le pain sera distribué. Je vous invite à ne pas manger tout de suite votre pain, mais à le garder dans la main, ainsi que votre petit verre. Et une fois que tout le monde est servi, nous allons manger et boire en même temps. La vie du Christ, c'est cela. Un pain partagé entre tous et de l'amour à donner sans compter. La présence du Christ, c'est aussi cela, une coupe qui passe d'habitude de main en main, là ce sont nos petits verres, mais qui disent la fraternité et la joie que Dieu veut pour chacun de nous, et ce monde nouveau où il n'y aura plus ni faim, ni soif, ni injustice. Nous pouvons donner, comment dire, au moins regarder notre frère et notre sœur en passant le pain, en lui disant une parole de bienveillance ou un regard bienveillant, on va dire comme ça. La vie du Christ. toi, Périne, la vie du Christ. La vie du Christ pour toi. Tu m'en donnes un plat. Tiens, je te donne celui-là. Avec joie, partageons le repas du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous te remercions, Dieu éternel, pour ce moment de partage, pour ce moment de fraternité, que ta parole et les signes que tu nous donnes dans ce pain et dans ce fruit de la vigne nous accompagnent et nous rappellent ce royaume auquel tu nous appelles. Seigneur, donne-nous de marcher avec joie sur les chemins où tu nous appelles. Donne-nous de regarder nos frères et sœurs avec joie. Donne-nous de pardonner et de recommencer et de demander pardon aussi à nos frères et sœurs. Donne-nous de témoigner de cette joie autour de nous. La foi n'a pas besoin d'être grande, c'est un tout petit grain de moutarde que tu nous donnes, mais qui nous donne de l'énergie pour avancer sur nos chemins. Merci. Et je vous invite à chanter « Magnifique est le Seigneur ». Alors même ceux qui ne le connaissent pas, c'est facile, on va le chanter deux fois. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Et on va le chanter deux fois. Est-ce que vous jouez, Guy ? Que la paix de Dieu soit sur nous, que la paix de Dieu soit en nous et que la paix de Dieu soit aussi par nous. Allons en paix. Amen. Une bonne semaine à chacun et chacune et vous pouvez déposer votre verre ici avant de partir et n'hésitez pas encore à partager un petit moment, à parler les uns avec les autres. Bon dimanche. Bon, ça y est, je peux les deux.